deuxième congrès virtuel francophone de FT. Je suis Marie-Annelle, votre hôtesse ce soir. Et avant de commencer, j'aimerais juste rappeler qu'en écoutant cette conférence ou son enregistrement, vous acceptez d'être responsable de votre bien-être personnel. L'EFT est un outil à la fois simple et très puissant, dont les résultats varient naturellement d'une personne à l'autre. Les témoignages avancés lors de cette conférence ne constituent pas une garantie que vous aurez les mêmes résultats sur vous. Consultez toujours votre médecin traitant ou un spécialiste en cas de problème médical dans son domaine de compétence. Ce cadre étant posé, j'ai le plaisir d'accueillir Bianca von Heyroth. Bonsoir Bianca.
Bonsoir Maria.
Bianca est là ce soir pour sa conférence intitulée « L'enfant abandonné en nous » ou « Comment redonner de la joie avec l'EFT ». Elle va partager avec nous une approche qu'elle a développée pour mieux cerner les blocages que nous avons tous à un moment donné ou à un autre. Et cela va vous intéresser particulièrement si vous désirez travailler en profondeur et pourtant avec douceur, précision et une rapidité parfois étonnante. Elle va décrire une façon d'aborder ces blocages profondément enracinés qu'on croit peut-être avoir éliminés grâce à différentes méthodes de développement personnel, mais qui continuent parfois à nous surprendre. Il ne s'agit pas vraiment de l'enfant intérieur, comme on peut l'entendre en général, mais plutôt de cet enfant abandonné en nous que Bianca a nommé Enima. Bianca a découvert l'EFT il y a de nombreuses années, d'abord grâce au manuel de Gary Craig, et très vite elle s'est rendue compte de la nécessité de se former auprès de formateurs expérimentés. Et d'ailleurs, depuis, elle n'arrête plus cette démarche dans l'EFT et dans beaucoup d'autres pratiques énergétiques. Et actuellement, elle explore, avec la passion qui la caractérise, la médecine quantique. Elle-même formatrice certifiée par la AMET, elle donne régulièrement des formations et elle propose bien sûr des consultations en individuel dans le monde entier. Rencontrant souvent dans sa pratique des problématiques liées à cet enfant abandonné en nous, elle a eu envie de mettre ce sujet en lumière avec nous ce soir. Et je vous rappelle que vous pourrez lui poser des questions à la fin de la présentation. Alors notez-les et elle se fera un plaisir d'y répondre. Alors Bianca, que signifie ce terme énigmatique de Enima?
C'est pas si énigmatique, mais Enima veut dire énergie, information, matrice. Et ça part de l'idée de l'enfant, en fait. C'est une chose qu'on découvre de plus en plus important. Et j'ai développé un protocole où on peut atteindre cet enfant. Et il s'agit toujours d'un enfant ou une part de nous-mêmes qui a été exclue, qui est mise à part, qui pompe notre énergie.
Est-ce que c'est un travail douloureux?
Absolument pas. C'est absolument pas. C'est comme toujours dans l'EFT, on se donne beaucoup de mal pour trouver des choses faciles, non douloureuses. Gary Craig disait que c'est pas la peine de renforcer ce qui fait mal. Ce que j'aime dans cette approche, ou ce qu'on découvre de plus en plus on pratique, plus on le découvre, c'est que l'être humain veut que ça aille bien, il cherche la solution. Et donc cette approche que j'ai mise au point se base sur les caractéristiques innées. On veut absolument que ça aille bien et on utilise cette force-là. Mm-hmm. C'est la première fois que j'en parle, c'est un peu une coming out, donc on va voir ce que ça va donner. Je le pratique souvent, mais je n'ai pas mis sur papier, donc je te remercie Maria de me donner cette occasion pour ce deuxième congrès. Et je trouve ça très excitant. Exciting, comme disent les Anglais.
Oui, moi aussi.
J'ai envie de commencer de dire deux ou trois mots sur l'enfant intérieur, mais on sait que l'enfant divin ou l'enfant éternel est une chose qui existe dans presque toutes les mythologies et dans l'imagerie populaire. Ça existe aussi, bien sûr, dans les contes pour enfants, où les enfants sont un peu plus âgés et qui sortent des situations difficiles grâce à leur courage ou leur ruse ou leur capacité exceptionnelle. Et pour les filles, c'est souvent grâce à leur vertu, mais c'est comme ça. Mm-hmm. C'est bon, quand on pense à Blanche-Neige et à Cendrillon, c'est bien sûr grâce à leur immense vertu. C'est avec Carl Gustav Jung, le psychanalyste, qu'apparaît le concept de l'enfant intérieur aujourd'hui. Ça revient. Et c'est un terme, donc, qui est issu de sa psychologie analytique à lui. Pour Jung, donc, l'enfant intérieur, c'est l'enfant divin. C'est, dans ce cadre théorique, c'est la part de l'homme et de la femme en nous. Il s'agit donc d'un archétype. Et la formation de l'inconscient collectif, ce qui est intéressant parce qu'on rejoint un peu ça maintenant. Pour lui, l'enfant intérieur est une articulation, il s'agit en gros d'un principe d'individuation qui s'accomplit avec la maturité de l'homme. L'homme y trouvera son anima et la femme y trouvera son animus. Ça a un petit rapport avec Enigma, mais ce n'était pas exprès.
Oui, effectivement, ça s'est pensé à ça.
Ce qui est intéressant avec l'inconscient collectif, c'est que ça rejoint d'autres hypothèses aujourd'hui, comme enfin, nous disons tous, nous sommes tous un, où nous parlons du champ morphique, nous parlons aussi de la psychomatière. Je pense que Jung avait la préscience de tout ça.
Mm-hmm. Et après, mais cette notion a évolué depuis.
Ah oui, ça évolue. Et ça rejoint, ça se tisse, en fait. Mm-hmm. Alors, beaucoup de psychologues après Jung se sont saisis de ce concept et ont fait avancer notre compréhension pour l'origine de nos souffrances. Bon, je ne vais pas revenir sur les traumatismes, nous savons tous à quel point on peut être marqué par cela et comment ils restent ancrés en nous. Et l'EFT a trouvé un moyen ou des moyens de rapidement atteindre cela. Ce que je voulais dire aussi, on trouve beaucoup de personnes qui font un travail sur l'enfant intérieur, mais ce n'est pas vraiment comme l'EFT le fait. Parce que les praticiens EFT sont allégés. Ils sont allés plus vite. Et c'est ce que je fais encore plus vite, et encore plus précis, pour rejoindre l'enfant intérieur que l'on aime, c'est-à-dire l'enfant idéal. Et il ne s'agit d'ailleurs pas dans l'EFT de l'enfant qui est encapsulé en traumatisme. Il peut très bien être question d'un soldat, par exemple, qui a un PTSD, ou ça peut aussi concerner un viol ou un tabassage. On a peut-être assisté à quelque chose de traumatisant et on n'a pas pu aider. Ça aussi, ça peut constituer des traumatismes et des enigmas, donc pas forcément des enfants, mais c'est cette part à nous qui reste encapsulée.
Donc il ne s'agit pas forcément d'un enfant jeune ou d'un adolescent?
Non, il s'agit juste de quelque chose qui s'est passé. Si c'est passé il y a 3 mois et on le garde en soi et on ne peut pas en parler, il y a quand même une personne qui est plus jeune, celle qui a vécu le traumatisme il y a 3 mois, et la personne plus grande qui en parle. Je vais référer à la plus jeune et la plus grande ou quelque chose comme ça. Mais alors la question importante que je trouve, c'est pourquoi est-ce qu'on garde les traces de ces événements? Parce que ce sont des puissants blocages. Et à quoi ça sert de les garder? Le danger est passé, le père ne peut plus maltraiter son enfant, tout le monde a survécu à l'accident de voiture, on a déjà pardonné à la mère d'avoir donné priorité à l'alcool. C'est vraiment contre-productif de rester bloqué. Mm-hmm. Pourtant, une des raisons, je crois, est cette capacité, enfin, nous devons notre survie à cette capacité innée, quasi instantanée, d'encapsuler le traumatisme et continuer à vivre. Et je pense que l'homme n'aurait pas survécu.
Oui, il le fallait. C'est un mécanisme de défense.
Absolument. Et c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment très très important, puisqu'il faut avancer. Même physiquement, on le sait, quand quelqu'un est blessé, il court quand même pour se mettre à l'abri. C'est une condition de survie. Et je trouve ça très important et très positif. C'est une chose que je salue très souvent au cours du travail. Je salue ces capacités de protection que l'individu a utilisées pour pouvoir continuer à vivre. C'est donc un élément positif et pas un gênant, bien sûr, mais on doit quand même le saluer avec beaucoup de respect, je trouve.
Sur le moment, ça paraît la bonne solution, même si après
exactement.
Semble idiot.
Oui, c'est exactement ça. Et comme le corps a dit, j'ai trouvé une bonne solution, il le répète. Mais au départ, c'était une bonne solution. Je crois que c'est Milton Erickson qui dit, tout problème a été une solution au départ.
Et il peut être important de le rappeler.
Ah oui, il faut absolument leur dire que c'est bien fait, bravo. C'est grâce à ça qu'ils sont là. Hein.
Parce que souvent, ils sont en colère contre cette version
ils en ont assez. J'ai convaincu, c'est Gary Craig qui le dit d'ailleurs aussi, que l'homme ne fait rien qui n'est pas perçu par lui-même comme étant la meilleure solution, sur le moment. Ça peut paraître complètement absurde, néfaste, mais c'est quand même la seule solution qu'il a trouvée, sinon il aurait trouvé une meilleure.
Mais quand on parle de EFT, qui signifie technique de liberté émotionnelle, cela implique une ouverture au choix. Il y a des options, n'est-ce pas?
Oui, c'est ça qui est énorme. C'est grâce à justement EFT, on peut trouver d'autres solutions pour le problème. Et donc on peut décharger la première réaction de défense et de protection. En anglais, j'aime beaucoup l'anglais parce que les réactions devant un danger sont les 3 F, fight, flight or freeze. Une de mes amies a trouvé les 3 F en français aussi, c'est foncer, fuir, se figer. Je trouve ça pas mal. Mm-hmm. C'est un enfant, c'est souvent cette dernière option qui sera choisie parce qu'il ne peut pas s'opposer, il ne peut pas se défendre, il ne peut rien faire. Il va choisir ça, c'est pour sa sauvegarde, il se pétrifie.
D'accord. Et c'est ça qui va créer ce que tu appelles l'anima?
La plupart du temps. Je crois dire que c'est presque à 100%. Et je pense aussi que tous les praticiens vont se concentrer sur l'enfant intérieur ou sur l'anima ou sur, en tout cas, ce qu'ils appellent, ils peuvent l'appeler ce qu'ils veulent, mais justement sur ces traumatismes. Et ces traumatismes sont très puissants quand ils sont subis avant l'âge de 5-6 ans et même avant in utero. Et puis, il y a aussi des personnes qui viennent parce qu'ils ont reçu des traumatismes dans d'autres vies. On peut les travailler tout aussi bien. Ce qui est bien, c'est quand on décharge un traumatisme très fort, de préférence précoce si on peut, et il y a fort à parier que les autres traumatismes qui ont suivi, qui sont les mêmes, du style je n'arrive à réussir ce plat, je dis n'importe quoi, réussir ce plat difficile ou ce gâteau, c'est répété, mais il faut peut-être revenir à la première occasion où l'enfant n'a pas réussi à faire un gâteau et c'était une catastrophe. Quand on détraumatise les premiers incidents, les autres vont se décharger tout seuls, en principe.
Ça va éliminer toutes les répétitions.
Ouais, oui, ça c'est le truc de l'arbre et la forêt et l'arbre qui le coupe et tous les autres arbres disparaissent. Sinon, on continue jusqu'à ce qu'on a tout déchargé et c'est pas si compliqué que ça et ça va assez vite.
Il faut revenir à ces événements pour pouvoir les intégrer?
Oui, on peut dire ça, oui. Mais la question est savoir où se cachent ces traumatismes et comment peut-on... Oui, parce qu'on vit avec tous les jours, c'est très lourd et il faut les trouver.
Oui, mais c'est difficile de les identifier, effectivement. On sait qu'il y a quelque chose, mais on ne sait pas quoi.
Oui, on ne sait pas. Même les spécialistes ne savent pas très bien où se stockent les souvenirs dans le cerveau. Certaines hypothèses actuelles théorisent que les traumatismes seraient conservés en dehors de la personne, dans les espèces que j'appelle cachettes quantiques, ou dans des lieux comme les immenses gardes meubles, les ashogas, par exemple, c'est des espaces de stockage qui sont mis à notre disposition pour les objets dont nous n'avons pas un besoin immédiat. Et pas besoin du tout, peut-être, d'ailleurs. Sauf que ces lieux de stockage seraient le champ morphique ou la matrice. Pour moi, cette hypothèse ou ces hypothèses facilitent la compréhension des phénomènes qu'on appelait il n'y a pas si longtemps le refoulement. N'oublions pas en passant que ces refoulements sont redoutablement efficaces.
Oui, et une fois de plus, c'était la bonne solution sur le moment, parce qu'on ne pouvait pas traiter cette information tout de suite.
Oui, oui. Alors, en partant de cette idée que peut-être les traumatismes ne sont pas, ou ils sont dans le champ, au champ morphique, le cerveau serait comme une poste de télévision que l'on peut allumer, qu'on doit allumer, et qui n'enverra un programme que si on a choisi une chaîne qui émet un programme. Mm-hmm. Le poste de télévision ne fait rien par lui-même. C'est comme si la personne ne fait rien lui-même. N'étant pas scientifique, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas si cette hypothèse va se révéler robuste et solide, mais elle doit donner des naissances à des développements nouveaux fort intéressants. Mmh. Si ces traumatismes vivaient leur vie dans les cachettes quantiques, ils ne sortaient que quand le téléviseur se trouve branché sur la chaîne propre au traumatisme. Ce serait une façon d'illustrer ou même d'expliquer le mécanisme du refoulement. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se brancher. C'est un peu ce qu'explique Bruce Lipton avec les gènes. Il faut les stimuler pour qu'ils répondent.
Mmh. Mais alors, comment se brancher sur la bonne chaîne pour aller libérer ces traumatismes?
C'est grâce aux questions. Les questions sont très importantes dans la pratique de l'EFT. Et l'écoute et les questions sont l'alpha et l'oméga dans notre pratique. Mmh. On s'aperçoit vite que les traumatismes sont intacts, comme encapsulés. On les trouve tels qu'ils étaient à l'origine. Ils ont leur individualité propre. Il suffit ensuite de les tapoter selon les règles de l'art. La plus souvent, on va trouver l'utilité de la technique du film. Mm-hmm. Je ne sais pas si nos auditeurs connaissent la technique du film, mais peut-être je pourrais répondre après si...
Oui, s'il y a des personnes qui ont besoin d'explications plus détaillées sur la technique du film, qui fait partie des outils de base de l'EFT, mentionnez-le dans les questions tout à l'heure, et Bianca vous donnera plus d'explications.
Oui, comme ça, comme je...
Mais c'est vrai que la technique du film pour libérer, c'est ce que tu dis là, qu'on retrouve les traumatismes intacts, ça me fait penser à ces mammouths qu'on a trouvés complètement encapsulés dans la glace, comme
oui,
si ça s'est arrêté hier. Donc quand on rencontre un mammouth, on a la technique du film, heureusement.
Et
dans ton expérience, qu'est-ce qui se passe?
Oui. Quand on a achevé, quand on a bien fait la technique du film, on trouve toujours confronté à une surprise. On trouve que que l'histoire a changé. Mm-hmm. C'est comme si la personne pouvait avoir une version plus heureuse et on peut lui demander si ça ne vient pas automatiquement une version plus heureuse quand on lui demande de revivre la situation. S'il dit pas, oh, ça ne fait rien, ça va. On peut pousser à dire, et si tu pouvais revivre cette histoire, comment ça se passerait-il? Ou si tu pouvais revivre, qu'est-ce que tu changerais? Et ça donne, la plupart du temps, naissance à des histoires qui font que le passé n'est plus du tout lourd, plus du tout douloureux, au contraire, enrichi. C'est très curieux.
Donc on peut dépasser le temps et l'espace et réécrire son histoire personnelle, en fait.
Oui, mais c'est très spontané. Mm-hmm. Ça vient tout seul. Mm-hmm. C'est ça qui est étonnant.
Oui.
Et à ce propos, Carl Dawson, qui était master EFT et donc était formé par Gavi lui-même, il a fait une spécialité de ce phénomène avec sa technique qui s'appelle Matrix Reimprinting, et il a déposé la marque. Il a baptisé ce phénomène énergétique qu'il traite ECHO, qui signifie énergie, conscience, hologramme. Et je trouve que hologramme, c'est très très bien, très bien trouvé. Alors ça correspond à mon énigme. Je ne sais pas si ça correspond exactement, mais ça répond au même besoin de nommer.
Oui.
Mais d'autres praticiens avant lui, et même après lui, ont aussi mis en évidence cette capacité qu'a l'homme de se créer une nouvelle histoire, un passé heureux et une enfance heureuse. Et moi, je vais parler plutôt de deux techniques très rapidement, parce que je les pratique, donc c'est plus facile. Je pense à l'imagineering qui a été mise au point par Gwyneth Moss, qui est master aussi, elle, aussi formée par Gary Craig. Et ici, le client, pour traiter des problèmes chroniques, fait grâce à un protocole très précis, cherche une solution. Mm-hmm. Et au fur et à mesure de cette recherche, elle trouve un apaisement, la douleur ou les problèmes s'en vont. Ça a commencé avec des problèmes physiques. Et maintenant, on peut l'utiliser pour beaucoup de choses, et même à distance. Mais ça, c'est autre chose. Mm-hmm. Et là, ce sont des ondes θ qui se mettent en œuvre. C'est ça qui fait la libération. Parce que les ondes θ ont été mises au repos. Les ondes bêta ont été mises au repos. C'est les ondes qui réfléchissent et qui analysent, etc. On les a mises au repos. Mm-hmm. Et c'est les ondes θ qui se mettent en œuvre et qui se déploient. Et ça permet à la personne de trouver la solution à son problème.
D'accord.
Avec l'imaginaire.
Oui. Tu peux dire un mot sur ces ondes? Ce sont des ondes.
Oui, je viens très rapidement. Je sais qu'il n'y a pas trop de spécialistes à l'écoute parce que je le fais un peu courte. Hein.
Alors, oui, ça donne un aperçu.
Ça donne un aperçu, oui. On parle en général de quatre types. Il y a les ondes delta qui sont partagées par l'univers, à ce que l'on dit. En tout cas, c'est certain qu'un nouveau-né est en onde delta quand il vient au monde. Mm-hmm. Ensuite, petit à petit, ça développe les ondes θ et notre subconscient. Et c'est un immense réservoir de créativité. C'est là aussi on trouve la mémoire de tout ce qu'on a vécu. Et peut-être la mémoire d'autres choses. Si ce n'est pas le delta, je ne sais pas très bien. Puis il y a les alpha dont on a beaucoup parlé à une certaine époque. Et elles font le pont entre les ondes θ et les ondes bêta qui apparaissent à peu près à l'âge scolaire. D'ailleurs, c'est pour ça que l'âge scolaire est toujours le même partout dans le monde, à peu près.
Oui.
Et c'est la plupart des traumatismes de l'enfance ont lieu avant l'âge de la raison. C'est pour ça que c'est aussi impactant à ce point-là.
Oui, parce que quand on est en onde alpha, on est en mode éponge et on prend tout ce qu'on entend pour la vérité vraie.
Oui.
C'est ça?
Et on n'a aucun moyen et on ne sait pas communiquer. Et puis les gens ne communiquent pas forcément facilement avec un enfant.
Mm-hmm.
Donc, excuse-moi, il y a le imaginary. Mm-hmm. Et il y a aussi le picture tapping technique qui est apparu plus tard, et qui est tout à fait passionnant. Et ça a été mis au point par Philippe Davis et Christine Sutton. Là, on demande au client de dessiner une image sur un thème général. Et on dit, je suis déprimé, ou mon patron ne m'aime pas, ou quelque chose comme ça.
Mm-hmm.
Général. On tapote sur cette image selon les règles spéciales. On le retourne, et ensuite, on demande un nouveau dessin. Et le dessin n'est jamais le même. Il y a toujours une recherche de solution.
Mmh.
Et ça peut durer assez longtemps, mais ce qui est épatant avec cette méthode, c'est que petit à petit, le client arrive à la résolution.
Oui.
Il est apaisé.
Oui.
Et c'est juste
de la trouver.
C'est plus inné qu'à l'homme de trouver la bonne solution.
Mmh.
Je pense que parce que l'homme est câblé comme ça. Toutes les créatures sont câblées comme ça.
Oui,
Et quand
bien
on les
sûr.
met en situation pour pouvoir faire ça, quand on les fait, ça va tout seul. Je vais tousser un peu.
D'accord. Alors,
Alors,
quelle est la procédure que tu as
je
trouvée
les ai mis au
pour
point.
faciliter ce travail?
Oui, là on entre dans le travail. Alors, il y a trois points. Il y a l'énergie, c'est donc l'énergie dans l'énima. Et l'énergie se
L'énergie du
trouve dans quelle
trauma, c'est
matière?
ça?
Pardon?
C'est l'énergie du traumatisme vécu.
Oui. Et qui se trouve dans une
D'accord.
cachette. Et qui est peut-être dans le champ morphique, ça peut être même dans les cellules du corps, c'est pas sûr que ce soit pas comme ça. Et pourquoi pas dans le cerveau? Parce qu'on est sur la piste de certaines. Grâce aux certains scans, on est sur la piste de l'hologramme qui serait dans l'énergie et qu'on pourrait dissoudre directement. Bon, ça peut être
Oui.
tout à la fois. On verra bien, mais de toute façon, ce qui est important, cette énergie est bloquée, elle est captive. Un deuxième pied à mon trépied, j'ai l'obligation du cerveau de répondre, d'apporter des meilleures solutions disponibles. Le cerveau fera, on lui pose une question, il donnera toujours la meilleure réponse. C'est absolument primordial. Et par exemple, dans la vie de tous les jours, on peut dire, quand on est un peu bloqué devant un guichet, que feriez-vous à ma place? Et il faut que la personne derrière le guichet fasse un grand effort pour ne pas donner un renseignement. Parce que son cerveau, naturellement, le poussera à dire, à votre place, j'irai prendre une photocopie de ce document. Enfin, il donnera, parce qu'il a de l'expérience, et il ne peut pas s'empêcher de l'utiliser et le donner. Et mon troisième pied, bien sûr, c'est le champ ou la matrice. Et donc, nous avons notre énima, qui veut dire énergie, information, matrice. Ce sont mes trois pieds.
D'accord.
Donc, puisque nous avons appris que tout est énergie et que tout est information, c'est Einstein qui nous l'a dit et ça semble être vrai toujours. Nous sommes tous un et nous faisons tous partie de la même matrice. Et j'ajoute qu'il est hautement probable que toutes les solutions ou possibilités sont déjà présentes dans la matrice. Et si c'est le cas, je suppose, l'EFT permettra à coup sûr de les trouver beaucoup plus facilement. Et dans la pratique, ça semble bien marcher comme ça, donc je viens le croire.
Alors, comment savoir si on est en face d'une énigme?
Ça se signale de différentes façons. Comme on sait qu'il s'agit d'une énergie, on peut l'imaginer en tant que praticien sous forme d'une boule, parce qu'à la manière d'une boule dans l'estomac ou dans la gorge. Elle peut aussi se
Oui.
manifester comme une image, comme un souvenir précis, parfois une image bloquée d'ailleurs, un souvenir, un ressenti ou quelque chose qu'on entend, par exemple une voix qui répète toujours la même chose. Elle est toujours liée à un traumatisme. Elle reste figée, elle bouge peu, elle vit sa vie d'exclus et de rejeté. C'est à ça qu'on le reconnaît. Le client fera comprendre que ça, c'est à part. Une énigme se crée avec un événement traumatisant ou dramatique. Il y a une autre condition, c'est inattendu. Il y a aussi un sentiment de solitude, il y a un sentiment d'impuissance. Ces choses-là sont presque toujours présentes. C'est comme une concentration d'énergie qui tourne sur elle-même, comme une espèce de trou noir, comme il y a, comme les astronomes ont trouvé, et qui aspire l'énergie plutôt que d'en émettre. Donc c'est très important de s'en libérer. Parce que ça capte beaucoup, ça mobilise beaucoup d'énergie. Alors là, c'est pour des traumatismes avec un grand T. Il y a bien sûr des solutions pour les petits T, c'est-à-dire quand il y a plein plein de traumatismes. On ne sait pas très bien par quel bout les prendre. On peut demander au client de faire une image de synthèse ou un film de synthèse. Et on commence à tapoter là-dessus. Et petit à petit, les détails s'ajoutent. Et ça devient une véritable image du traumatisme qu'on tapote et qu'on traite avec la technique du film, par exemple. C'est exactement la même chose. Seulement, on demande une synthèse. Et ça marche très bien, je peux te dire.
D'accord. Alors, est-ce que tu as déjà rencontré j'ai envie de dire des traumatismes positifs? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut y avoir un choc émotionnel d'ordre positif, peut-être trop de joie, une sorte de débordement, qui pourrait aussi créer une anima qui reste bloquée, rejetée quelque part?
Écoute, j'en ai entendu parler et j'ai été presque près de ça, mais en effet, en tapotant dessus, ce qui m'est arrivé, c'est surtout de tapoter en passant là-dessus, c'est-à-dire parce que ça venait là et puis ce n'était pas le sujet principal. Et ça s'apaise, ça se met en perspective et ça s'intègre mieux que quand c'est débordant. Sinon, j'ai lu des choses et je pense que c'est tapotable aussi si la personne désire le tapoter. En général, quand c'est comme ça, les gens y tiennent. Ils veulent garder cette espèce de consolation, etc. Mais c'est pas si bien que ça.
Oui, c'est pour dire que le stress peut être positif,
c'est pas de l'intérieur,
positif ou négatif.
Et ça a un effet un peu... Ouais. Ça a l'air bien, mais ça pompe aussi. Ça mobilise de l'énergie inutilement. C'est pas bien intégré. Pourquoi tu poses la question? C'est arrivé, ça aussi?
Non, c'est juste en parlant de ces traumatismes, je pense que c'est important de rappeler que on voit parfois l'échelle de stress par rapport à certains événements de la vie, et on voit forcément divorce, enterrement, tout ça. Mais dedans, il y a aussi des événements heureux, comme une naissance ou un mariage. Un mariage, c'est un moment de stress énorme pour la personne qui doit l'organiser. Et il faut pas oublier que oui, bien sûr, j'ai vécu un mariage heureux, c'est super, mais il y a aussi des éléments de stress. Donc c'est peut-être juste pour être à l'affût.
Oui, alors c'est pour ça que j'ai dit quand même que pour un ENIMA, c'est un événement traumatisant ou dramatique, c'est inattendu, ce qui n'est pas le cas d'une naissance ou un mariage en principe.
En principe.
Et il y a un sentiment de solitude, c'est-à-dire on ne peut pas en parler, et on est impuissant. C'est ça un peu ce que je donne. Les exemples de débordement de joie, immense joie, ça peut être très déstabilisant, je suis d'accord, mais en général, ça peut aussi être inattendu. Mais en général, on peut en parler, on n'est pas impuissant. Tu vois, j'appelle ça l'IDIS, inattendu, dramatique, isolant, sans stratégie.
Oui, oui.
Et quand
voilà,
tu es là,
on est dépourvu de moyens de traiter ce qui nous arrive.
Absolument. Et c'est pour ça que je parle plutôt de l'impuissance, de se figer, la paralysie, parmi les trois possibilités qu'on a, attaquer, fuir ou se pétrifier, c'est parce qu'on ne peut rien.
Oui.
Et on ne voit pas de solution. Et c'est ça le véritable ENIMA que je cherche.
Oui.
Parce que les autres sont là, on peut en parler, ils peuvent se décharger d'une façon plus normale, plus facile. Puisqu'on peut en parler. Un heureux événement, on peut en parler.
Alors, comment procéder pour dénicher cet ENIMA, quelle que soit la nature de l'événement qu'il aurait créé?
Alors, ça, pour moi, c'est tellement classique, c'est-à-dire on écoute et on questionne. Et je ne dirai jamais assez. Il faut tapoter pendant ce temps-là, évidemment. Ce n'est pas tellement les mots qui sont importants, c'est l'écoute et le questionnement. Et pour moi, c'est devenu très, très important. Pas de recadrage dans ce cas-là, si possible, un minimum en tout cas, un tout petit peu peut-être, mais vraiment un minimum. Parce qu'il vaut beaucoup mieux aider la personne à se connecter avec son ENIMA, en tout cas l'identifier, pas se connecter avec, parce que c'est la sienne et elle ne ressemble à aucune autre. Il n'est pas nécessaire ni même utile de dire à une personne qu'on cherche une ENIMA. Moi, je m'en sers pour un peu me guider dans ma recherche.
Oui.
Alors, j'ai envie de prendre l'exemple d'un enfant, c'est un peu bénin, enfin un peu anodin, qui vient d'apprendre que son chat a été donné à des inconnus. C'est jamais anodin pour un enfant.
Non, en effet.
Alors, il est là sous la table, il est tout petit, évidemment, je pense, sous le choc, il est mutique, il est immobile, il ne comprend rien. À ce moment-là, on peut demander à la version présente, la plus grande version, de se présenter devant l'ENIMA, qui est sous la table, et se placer à la même hauteur. C'est très important de ne pas être plus grand, de ne pas ressembler aux autres adultes qui sont peut-être parfois hostiles ou incompréhensifs.
Oui.
Bon, donc il s'agit d'un jeu de rôle. Alors la plus grande personne pourra se glisser sous la table et dire... dire voilà, je suis là, je suis toi plus grande ou plus grand. Je sais ce que tu ressens. Je vois que tu es triste. Est-ce que tu peux me raconter ce qui ne va pas? Mais on fait ça très très doucement. On peut éventuellement établir un contact avec les yeux, ça c'est formidable. On peut peut-être toucher la main et petit à petit, l'enfant qui se sent compris va se dégeler, va sortir un peu de son mutisme. Parfois c'est long. Donc on prend le temps, on tapote pendant ce temps-là. Et quand on arrive à vraiment communiquer un tout petit peu, c'est-à-dire la grande version et la plus jeune, on dit, tiens, j'ai un moyen, vous savez, des boutons magiques, c'est sympa, c'est secret, c'est du tapotage, je peux te montrer. Et je n'ai pas essayé de refuser à ce niveau-là. Tout le monde dit oui.
Oui.
Mais il m'est arrivé quand même de me trouver coincée avec quelqu'un et ça n'allait pas. La grande personne ne voulait pas y aller parce que la grande personne ne s'aimait pas du tout, du tout, du tout. Donc là, on peut faire appel au personnage ressource. Cette personne qui est très croyante a demandé que Jésus se vienne mettre à côté.
Wow.
Et nous avons pu avancer. Parce que Jésus était censé d'aimer tout le monde, y compris ma cliente.
Oui.
Donc on peut faire comme ça. Et c'est une femme qui est très intelligente et qui avait trouvé tout seul. Jésus viendrait l'aider.
Oui.
Alors, personnage ressource, c'est quand même assez connu aussi. On peut appeler Zorro, on peut appeler des anges, on peut appeler...
Oui, bien sûr, bien sûr qu'on est un peu dans l'univers de l'enfant, là, donc c'est le moment.
Oui, oui, tout à fait.
Il faut appeler un personnage ressource pour l'enfant qui est sous la table, enfin, la version plus jeune.
C'est la grande version. Le praticien fait de moins de choses possibles. C'est la grande version qui est sous la table, qui demande à la petite ce dont il a besoin. Mais les personnages ressources ne sont pas toujours nécessaires. Ça peut être nécessaire, mais pas toujours.
Ça peut être un recours. Oui.
Ça peut être un recours qui était-il quand j'étais bloquée avec cette personne qui ne s'aimait vraiment pas.
Voilà.
Donc ni la petite ni la grande pouvaient s'aimer, c'était un peu bloqué. Donc, mais Jésus, comme il aime tout le monde, c'était plus facile.
C'était possible, oui.
Oui, d'accord. C'était possible. Et ça a été vraiment possible, ça a été étonnant.
Oui. Et pour le tapotage, comment ça se passe alors pendant ce processus?
Je vais essayer d'expliquer. Alors, on peut tapoter soit si on est en face à face, le praticien peut tapoter sur le client, qui fait semblant, avec les gestes, de tapoter sur sa version plus jeune d'elle-même, ou alors il peut tapoter sur un ours, au lieu de tapoter dans l'air comme ça, on peut tapoter sur un objet, un ours, une photo, une représentation quelconque de la petite version, en fait. Mais moi, je travaille beaucoup par téléphone, et je fais ça par téléphone très bien. Je me tapote moi-même, parce que je ne peux pas faire autrement. Je me tapote un miroir. La personne se tapote ou un miroir. Et je dis, je fais semblant de me tapoter sur toi. Je tapote virtuellement sur toi. La personne peut se tapoter elle-même et dire qu'elle tapote virtuellement sur sa plus jeune version, ou peut encore prendre un nounours ou un objet pour tapoter dessus.
D'accord.
Ce qui est important, avant tout, c'est de ne pas se connecter émotionnellement avec la plus petite version de soi. Ça, c'est très important.
Et comment l'éviter?
Il faut le répéter tout le temps.
Oui.
Et c'est parce que c'est émotionnellement qu'il ne faut pas se connecter. Forcément, on se connecte d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce que parce que nous sommes tous un, mais il ne faut pas fusionner. Parce que si on fusionne, on recommence le traumatisme et puis on n'avance pas beaucoup.
D'accord. Donc l'important de maintenir ces deux rôles de la grande personne et
vraiment
la version plus jeune.
Vraiment séparément, deux rôles. Et en fait, le praticien, c'est la grande version de la cliente. Et le praticien vrai, celui qui sera payé à la fin, ne fait que guider.
Oui.
Très, très peu. Donne quelques renseignements par là, mais le praticien, c'est la grande version de la cliente ou du client. C'est un peu chiou que ça a expliqué, mais c'est beaucoup plus facile à faire.
Oui, c'est un ménage à trois un petit peu particulier.
Un chercheur qui a été consulté par Gary Craig dit que quand on est à deux, le client, le praticien, on est à trois parce qu'il y a l'univers avec.
Oui.
Donc, ce n'est pas si étrange que ça.
Oui.
Selon ce savant.
Oui, mais avec l'univers, ça fait quatre, alors.
Ça fait quatre. Là, on est à quatre. Mais bon,
pourquoi? Ça fait un drôle de triangle, Bianca.
Oui, mais c'est bien quand même, quand on est à quatre, parce qu'il se passe beaucoup de choses comme ça.
Oui, bien sûr.
Alors, donc, on procède exactement... Alors, on demande à... La grande version demande à la petite si on peut tapoter, et si c'était un film, ça serait quoi? Si l'enfant peut parler, ça va. Si l'enfant ne peut pas parler parce qu'il est trop petit, on saute ces étapes-là. On utilise son bon sens. Mais on tapote sur l'événement jusqu'à ce que ça baisse. Et ensuite, on fait image par image. Si l'enfant est un peu plus grand, on fait image par image, et on tapote et on descend comme un film, comme une technique du film normal.
Oui.
Et c'est tout le temps la grande version qui renseigne sur ce qui se passe.
Oui. Parce que, et quand l'intensité baisse pour la jeune version, comment continue la procédure?
Alors, c'est la grande version qui le dit, voilà, ça va mieux. Et quand vraiment c'est descendu à zéro, et ça va très vite à un certain moment, on s'aperçoit que la petite dit, écoute, je m'ennuie, j'ai envie d'aller jouer.
Oui.
Ou alors, on peut peut-être insister un tout petit peu plus et voir si tu as envie de jouer. Et elle dira assez spontanément ce qui va bien. Il y a même, ça m'est arrivé souvent, je dis, mais je sais que maman et papa m'aiment, mais ils ne le disent pas.
Oui.
Donc ça, on refait l'histoire comme ça. Et l'enfant s'en va jouer quand même. Mais si la version est plus... Enfin, si la petite est plus grande que ça, et déjà un petit enfant qui s'est déjà raisonné, qui va à l'école par exemple, il trouvera des ressources. On lui demande comment ça va se passer. Il dit, ah ben moi, je vais faire mes devoirs la veille, comme ça, j'aurai pas la rousse quand je rentre le soir. Il évite donc de se traumatiser. La même chose, il fera attention de ne pas faire du vélo là où il ne faut pas, il ne va pas se renverser dans le fossé et rester seul longtemps, désolé, etc. Il redevient sage, il évite les écueils et les traumatismes comme ça. C'est absolument incroyable. Et c'est parfois très inattendu. Il y a aussi des personnes qui inventent des ruses, ruse un peu papa, ruse un peu maman, pour trouver une meilleure solution, pour que tout le monde soit content et heureux, et tout le monde soit satisfait. Et à ce moment-là, il faut dire que la petite version n'est plus un énigme, parce qu'il n'est plus isolé, il n'est plus traumatisé,
oui.
Il peut parler, parce qu'il parle avec sa grande version, et il a une solution.
Oui.
Et c'est ça qui
est
important.
Il a trouvé la solution qui lui permet de continuer le cours de sa vie.
Oui. C'est pour ça que c'est important d'intervenir le moins possible, parce que c'est les ressources de l'enfant qu'on va utiliser. C'est pas les ressources d'un adulte, c'est les ressources d'un enfant.
Bien sûr.
D'ailleurs, dans les contes de fées, c'est les enfants qui trouvent les ressources.
Oui. Donc il faut juste guider, encadrer ce processus, oui, pour et que la grande personne et la petite puissent élaborer la bonne solution.
Oui. Je ne sais pas si l'explication était très claire, mais si tu voulais bien, on pourrait faire une démonstration.
Oui, tout à fait. Oui, l'explication théorique a donné déjà beaucoup d'éléments et on va le faire tant que faire se peut dans ce cadre un petit peu particulier, mais
oui,
je veux bien me prêter au jeu.
On va voir, c'est toujours une expérience, ça peut réussir comme ça peut peut-être être un peu difficile, on va voir.
Oui, ben on va voir.
Et tu as quelque chose qui te vient en mémoire quand tu parlais de se cacher sous la table, c'est très courant, donc je demande peut-être...
Oui, moi c'est une autre image qui m'est venue.
Oui.
Je me trouve sur le canapé dans le salon entre mes deux parents,
oui,
avec mon père qui annonce, je suis donc au milieu, j'ai ma mère sur la droite et mon père sur la gauche, et mon père nous annonce à toutes les deux qu'il va quitter la maison pour aller vivre avec une autre femme.
Wow. Wow.
Et je vois cette petite fille sur le canapé qui effectivement est pétrifiée par cette nouvelle parce qu'elle n'a aucune ressource pour y faire face. Et elle doit avoir 6-7 ans.
6-7 ans, oui. Et s'y attendait pas?
Non. Non, pas du tout.
Personne ne lui avait parlé, en fait.
Non, personne ne lui en avait parlé. Et il s'est assis comme il le fait tous les soirs, après le dîner, et il a annoncé ça comme il annoncerait, tiens, je vais aller lire un livre.
Bon. D'accord. Et la maman, comment elle a réagi?
Je ne la vois pas très clairement. Elle n'est pas très présente.
Pas très présente. Donc, elle ne s'occupe pas on ne parle pas de l'enfant?
Non.
Ok.
Et je pense qu'elle, elle le savait déjà.
La maman savait?
Oui.
Ou l'enfant?
La maman savait. La maman était au courant et cette annonce était vraiment pour l'enfant.
Oui, oui. C'est vraiment une bonne façon de, d'annoncer les choses. Hein. C'est brutal.
Mais là, on peut en discuter.
Voilà une belle élima. Hein.
Ça s'est passé comme ça, oui, effectivement.
Oui, oui. C'est vraiment... Ok.
Et si elle avait pu se cacher sous la table, je pense qu'elle l'aurait fait. Mais elle est totalement pétrifiée sur ce canapé jaune.
Ah oui. Bon, écoute, si tu te connectais avec ça, je ne te demande pas de le faire, tu serais à quelle intensité sur l'échelle de 0 à 10 ?
À 10.
À 10. Comment tu le sais ?
Ben, en fait, instinctivement, j'ai plutôt envie de dire que je serai à zéro d'énergie et de réponse possible. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement figé et congelé.
Oui, complètement dévasté.
Anesthésié. Oui. Et totalement coupé de tout.
Ok. Alors, on va faire une chose. Pour faciliter les choses, on va figer papa et maman.
Okay. D'accord.
On va dire qu'ils restent comme ils sont, ils font rien d'autre. La petite Maria a eu cette nouvelle et elle est anéantie en quelque sorte.
Oui.
Est-ce que tu peux dire ça? Tu tapotes s'il te plaît tout le temps.
Oui, bien sûr. Donc je mets papa et maman sur pause.
Sur pause, ils sont sur pause. Et là, tu peux t'introduire toi la grande, qui a beaucoup vécu, qui sait beaucoup plus de choses. Et tu vas voir, est-ce qu'elle te voit? Ou est-ce qu'elle regarde dans le vide?
Oui, je m'installe dans un fauteuil en face. Il y a la table basse entre nous.
D'accord.
Et je me présente et il y a ses yeux qui bougent, mais rien d'autre.
Non, rien d'autre, ok.
Elle me voit.
Ok. Est-ce que tu peux dire qui tu es alors?
Oui, oui, je me présente.
Ouais. Est-ce que ça ne serait pas plus commode que tu lui demandes si tu peux lui prendre par la main pour aller ailleurs, pour qu'il n'y ait pas une table entre vous deux. Est-ce que ça,
oui,
c'est possible?
Oui, et puis avec les deux autres espèces de mannequins en cire, là, qui sont sur pause, de toute façon, on n'a pas grand-chose à faire dans cette pièce-là.
D'accord, donc vous pouvez aller quelque part.
Oui, je crois qu'on va aller s'installer dehors.
Juste pour que rien ne vous sépare, vraiment.
Oui, on va s'installer dehors, sur la pelouse, en face l'une de l'autre, sans rien entre nous.
D'accord. Elle est plus détendue, la petite.
Oui.
Ok.
Mais du coup, elle pleure. Elle a des larmes qui viennent.
Ok, ok. Là, tu peux la tapoter, tu crois que ça, c'est une proposition que tu as envie de faire? Ou tu veux attendre un peu, peut-être lui prendre la main?
Oui, là, tout de suite, j'ai pas l'impression qu'elle puisse recevoir ça.
D'accord.
J'aurais envie de la prendre contre moi et tapoter sur moi.
Ah d'accord, mais ça c'est une bonne idée. Ok. On va faire ça à quelques instants.
Voilà, je lui fais un câlin. Je la laisse aller et je tapote sur moi, grande.
Toi la grande. Elle aime ça?
Ça a l'air de se calmer, oui.
Elle a 6 ans. Est-ce que ça, tu penses que c'est bien de lui demander comment elle se sent? Ou qu'est-ce...
Oui, maintenant qu'elle se calme, je pense que je peux lui demander.
Oui. Pas facile.
Elle me dit qu'elle ne comprend pas.
Elle ne comprend pas. Oui. Et toi, en tant qu'adulte, qu'est-ce que tu as envie de lui dire pour que ce soit plus facile pour elle?
Que justement, il n'y a rien à comprendre, que c'est des histoires de grands, que ça n'a rien à voir avec elle, surtout.
Oui, c'est ça.
Parce que, oui, ce qu'elle ne comprend pas, c'est qu'est-ce que j'ai fait pour ça. C'est de ma faute.
Oui, c'est ça, exactement.
Là, non, peut-être. C'est pas de ta faute.
C'est pas de ta faute. Est-ce que tu peux lui apprendre cette technique ou pas? C'est encore trop tôt?
Non, là, je crois qu'elle peut se mettre de nouveau face. Je lui demande si elle veut bien se mettre en face et que je lui montre.
Oui, et toi, tu peux lui tapoter, hein. Elle n'est pas obligée de se tapoter elle-même.
Voilà, oui.
Tu peux lui montrer.
À tapoter tout doucement sur elle.
Doucement, pour dire que c'est vrai qu'elle n'y est pour rien.
Mm.
C'est vrai.
Mm.
Et reprendre les paroles qu'elle a envie de dire, c'est pas sa faute.
Oui, elle n'y est pour rien.
Elle n'y est pour rien.
C'est une histoire de grand, ça la concerne pas.
Ça la concerne pas.
ça la concerne, mais c'est pas de sa faute. C'est pas à
cause. Oui, c'est pas de sa faute.
Ça n'a rien à voir avec elle.
Et ça ne lui enlève pas le droit de d'être heureux, d'être un enfant. Très souvent, quand j'ai des enfants, je dis tu es quand même une très cool, tu es une fille, une très belle
oui,
fille.
Oui.
Les parents t'aiment quand même.
Oui.
Même si, est-ce que ça, c'est possible de dire ça? Elle accepte ça ou pas?
J'ai l'impression qu'elle entend. Je ne sais pas si elle l'accepte, si elle l'intègre complètement, mais elle
non.
entend. C'est comme si elle pesait cette possibilité.
Ouais. Ils sont un peu maladroits, je dirais.
Oui. Oui. Oui, ça, j'ai envie de lui dire aussi. Qu'il
ouais.
est quand même... Il est quand même un peu pâteau, papa, de venir dire ça comme ça.
Il est vraiment pâteau.
Il aurait pu faire ça de façon plus
autrement.
Intelligente.
Ouais. Ouais. C'est clair. C'est clair.
Et du coup, elle a envie d'aller le voir.
Ah oui?
Oui.
D'accord.
Elle voudrait qu'on retourne et qu'on en parle.
Tu es d'accord pour ça?
Oui, oui, si elle
ouais,
veut okay. ça, moi je suis d'accord.
Allons-y, devant le canapé jaune.
Oui. Mais par contre, elle préfère rester avec moi. Elle n'a pas envie de se remettre entre deux.
D'accord. Ça, c'est super.
Mm.
D'accord.
Et elle voudrait que ce soit elle qui les remette en marche.
D'accord.
Qui enlève ton pause.
Ah oui, d'accord.
C'est la télécommande.
Oui, oui, absolument. Bonne idée.
D'accord.
Oui, elle a 6 ans, elle peut le faire. Hein.
Oui.
Et qu'est-ce qui se passe?
Alors, voilà, ils se réveillent, ils se remettent en route. Et ça aussi, ça fait penser à la Belle au bois dormant, quand tout le monde se réveille après les 100 ans de sommeil.
Ouais. Ah, on n'a rien inventé, nous autres, avec ça.
Ben oui.
Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant?
Ben, elle se tourne vers papa et elle lui dit... D'accord, tu fais ce que tu veux, mais t'aurais quand même pu me dire ça autrement.
D'accord. Et elle est comment quand elle dit ça?
Bah, elle est à peu près calme.
Tu peux tout à fait
le dire comme
grande.
Elle le dirait à un camarade de son âge. Là, tu fais vraiment n'importe quoi, papa. Ça va pas.
D'accord. D'accord. Est-ce qu'elle a besoin que tu te tapotes? Est-ce que c'est un moment un peu stressant ou qu'est-ce que...
Non, par contre, moi, derrière elle... Je crois que je ferais bien de tapoter pour mon père.
Ah!
Ah, il y a du monde, hein!
Il y a du monde, oui, mais... C'est pas idiot, je trouve. C'est pas idiot
oui.
du tout.
Je Parce que s'il peu, a annoncé non. comme ça, c'est qu'il n'avait pas le choix, il ne pouvait pas le dire autrement. C'est trop difficile pour lui.
Ah, il était comme ça, ok.
Mm.
Okay. Ouais. Il se détend, là, ou pas?
Non, il est très mal à l'aise.
Il reste comme ça.
Okay. Oui.
Pour l'instant, c'est son problème, en fait.
Oui.
Et comment va la petite Maria de 6 ans?
Bah, elle, ça va. Ça lui confirme que, effectivement, s'il a dit ça comme ça, c'est qu'il ne pouvait pas faire autrement.
D'accord.
Et ça n'a rien à voir avec elle.
Ouais. Elle se sent comment? Elle est soulagée? Elle est encore triste?
Non, ça va. Elle est tranquille, là. Elle est bien.
Quand un client me dit ça va, je suis toujours très méfiante. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment parti ou est-ce que c'est tellement mieux?
Je ne sens pas de tristesse.
Tu ne sens pas de tristesse?
Elle est sur mes genoux.
Oui.
Mais je crois qu'effectivement, elle s'agite un peu. Elle commence à en avoir un peu marre.
C'est le tapotage pour les enfants, il ne faut pas trop exagérer. Hein. Pas
oui.
trop longtemps.
Non, je tapote plus sur elle, hein. Mais toute la situation là, avec les deux, qui on les a remis en route, mais ils n'ont pas l'air de bouger tellement plus pour autant. Elle a envie d'aller ailleurs. C'est leurs histoires.
Qui c'est leurs
histoires. Entre eux, qui l'embêtent pas.
Ok.
Elle préférait aller jouer, effectivement.
D'accord. Et là, la question, si on refait cette scène. Et ça se reproduit, papa annonce ça à la petite. Comment elle va réagir maintenant?
Plutôt que de se figer, elle va tout de suite installer un dialogue.
D'accord.
Elle pourrait dire quelque chose comme « Ah bon, mais qu'est-ce que tu me dis là? Pourquoi ?»
Oui, bonne question.
Oui, raconte, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Pourquoi tu me dis ça?
D'accord. D'accord.
Et ça pourrait se finir dans une discussion importante, mais calme entre les trois personnes.
D'accord. D'accord. Écoute, on fait là, c'est une expérience qu'on fait, mais je trouve que tu as trouvé une solution épatante. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Oui, oui. Quand je suis arrivée à cette image, je voyais vraiment la photo de ces trois personnages figés chacun dans leur coin sur le canapé jaune.
Oui.
Et là, là je vois... La... Oui, oui, là, la petite, elle n'y est plus. Et elle continue son parcours, elle continue sa vie à partir de là.
Oui. Donc, est-ce qu'il est possible que tu te remettes dans l'image de départ? Est-ce que tu peux la revivre ou est-ce que c'est...
Non, je peux la voir comme je regarderais une vieille photo, effectivement.
D'accord.
Je me souviens que c'était comme ça, mais
d'accord.
Je ne suis plus dedans.
D'accord, d'accord. Ben, je pense que tu as bien travaillé.
Merci, merci Bianca. Non, c'est bien mon introduction, parce que même...
On ne fait rien, nous autres. Tu as beaucoup travaillé, toi.
Oui, oui. Et la petite aussi.
Et la petite aussi.
Oui.
Elle avait des ressources.
Bravo à elle.
Elle avait des drôles de ressources.
Oui, parce qu'elle a trouvé des nouvelles façons de réagir à ce qui lui tombait dessus, parce que c'était vraiment ça, ça. Brah, ça tombait de nulle part.
C'était inattendu, dramatique. Elle ne pouvait pas en parler parce qu'il y avait silence général. Elle
ne
savait pas comment s'en sortir. Elle n'avait pas de stratégie.
Elle était totalement sans solution, oui, sans stratégie.
Et ça, c'est une énigme. Et moi, je trouve que c'est très commode de chercher ces quatre circonstances parce que quand on les résout beaucoup plus facilement, quand on est bien conscient que ça existe.
Ouais,
comme ça. Voilà.
Alors, je reviens à moi, à moi ici maintenant, à l'âge que j'ai aujourd'hui.
Oui.
Et une dernière question que je voudrais te poser avant qu'on passe aux questions des auditeurs, c'est est-ce que tu conseilles ou déconseilles de faire ce genre de travail en autotraitement, de le faire tout seul?
Je l'ai
est-ce
fait,
que c'est possible?
Je l'ai fait parce que j'étais très embêtée avec une image qui revenait souvent. Je marchais le long de la route d'une campagne, il y avait des roseaux et j'avais envie de mourir, mais je n'arrivais pas à m'en sortir. Et je me suis dit, je vais traiter ça comme énigme, faute de mieux.
Mm-hmm. Oui.
Et parce que je ne savais pas du tout comment le prendre. Et en effet, je me suis téléportée sur les genoux de ma grand-mère, qui a trouvé la solution pour moi. Donc j'avais automatiquement trouvé un personnage ressource.
Mm-hmm.
On avait dans mon enfance l'habitude, c'était absolument détestable, on avait l'habitude d'échanger des images d'Épinal dans des albums.
Mm-hmm.
Il fallait écrire des poèmes là-dedans. Alors moi, je faisais toujours des pâtés, puis je n'avais pas de très belles images d'Épinal. Et je détestais ça, et je me trouvais toujours inhibée, pas bien du tout. Et ma grand-mère avait des ressources. Elle m'a trouvé des poèmes que les autres n'avaient pas, ce qui est un bon point pour moi. Et elle avait aussi fait venir de l'étranger des images d'Épinal que les autres n'avaient pas non plus. Donc, mais là, j'ai laissé faire.
D'accord.
J'ai laissé faire, j'ai tapoté sur ce chemin, sur ce désir de mort, et qui probablement, c'est probablement pas uniquement cela, mais je l'ai fait sur moi-même, et j'ai trouvé, ça a été spontané que la petite que j'étais à l'époque a trouvé la ressource d'aller demander à ma grand-mère. Je pense, la plupart des techniques, on peut le faire soi-même.
Est-ce qu'il vaut mieux avoir d'abord une certaine expérience en le faisant avec d'autres personnes?
Oui, je pense. Oui, parce que sinon on se perd.
Oui.
C'est pas facile, tu as été parfaite, mais c'est pas facile de ne pas se reconnecter avec l'enfant qui souffre.
Oui. Oui, mais c'est vrai que ça aide d'avoir vraiment cette image de la grande personne que je suis maintenant et la petite fille de 6-7 ans que j'étais à l'époque. Ça,
oui,
ça a la dissociation.
Des personnes qui se... qui se connectent, qui fusionnent. Et oui. Alors, on a du mal à les détacher. Hein. Il faut tapoter mm-hmm. beaucoup. Pour que, mm-hmm. Parce que ce sont un peu des événements ou des sentiments ou des émotions repères chez la personne.
Oui.
Et ce sont des personnes qui peuvent s'identifier facilement à ça, comme tu as dit tout à l'heure, pour le bonheur aussi. C'est vrai que j'ai rencontré quelqu'un qui refusait de laisser passer la naissance. Je crois que c'était de sa fille. Mais elle était bloquée là-dessus aussi. Mm-hmm. Ce sont les doudous avec lesquels on se berce.
Oui.
Et ça, il faut éviter en principe.
Mm-hmm. Parce que sinon, bon, ben super, Bianca. Je pense que tu as donné beaucoup d'éléments pour les personnes qui cherchent des solutions en profondeur, mais en douceur, effectivement. Je veux dire, si cette scène à l'époque était extrêmement intense pour moi, et là, c'était tout à fait confortable.
Ce qui est très, très utile, ce que je n'ai pas dit dans l'explication, c'est de figer les autres personnages.
Oui, ah oui, c'est une super idée, ça.
Oui, c'est très, très bien, parce que là, on a la paix, on peut faire ce qu'on veut, ensuite, on va le retrouver voilà. gentiment.
Oui. Oui, et on revient plus tard.
Oui.
Tout à fait.
Ouais. C'est avec plaisir que je répondrai aux questions, si les auditeurs veulent.
Bien sûr, on va s'y mettre. Okay. Alors, sachez que Bianca vous propose donc des consultations avec cette technique, bien sûr. Est-ce que tu fais aussi des formations à cette approche-là?
Oui, je fais, particulièrement? J'aime beaucoup, je suis passionnée de formation.
Oui.
Je fais la formation à mettre.
D'accord. Et cette technique-là fait partie du niveau 2, j'imagine?
Non, ça ne fait pas partie du niveau 2, ça ne fait pas partie du cursus, mais je peux l'enseigner au niveau 3, ce n'est pas obligatoire. Pour le niveau 3, on est un peu libre, mais je n'ai pas commencé à l'enseigner avant. Et tu as vraiment la primeur, ma chère.
Ah, merci.
C'est la primeur.
Et toutes les personnes qui nous écoutent.
je ne l'ai pas dit.
Ce n'est pas la même chose que de le faire.
Je vais peut-être le mettre en forme pour le transmettre en enseignement. Mais je vais l'utiliser.
Oui. Alors, s'il y a des personnes qui sont demandeuses de ça, n'hésitez pas à contacter Bianca et elle se fera plaisir de faire ce travail-là, je suis sûre. On va passer aux questions-réponses. Alors, Bianca, nous allons prélever ensemble les questions dans le chat. J'ouvre ta ligne téléphonique de nouveau. Allô, est-ce que tu es là?
Oui, je suis là, j'attends.
D'accord.
Ouais. Tu veux que je trouve des questions? Il y a la première question qui semble importante, c'est l'énigma.
Quelques personnes qui n'étaient peut-être pas là depuis le début. Est-ce que tu peux rappeler la signification de l'énigma?
Oui, ça veut dire, donc dire énergie, information et matrice. Comme j'ai dit, tout est énergie et tout est information. Et la matrice, c'est ce qui nous, c'est à peu près ce qui nous enveloppe tous. On est tous dedans, nous faisons tous partie de la même matrice et c'est pour ça que cette méthode marche, en fait. Parce mm-hmm. qu'on cherche dans la matrice ce qui a été encapsulé là-dedans. Et on le rend à l'énergie générale qu'il y a tout autour de nous.
D'accord.
Je ne veux pas reprendre tout ce que j'ai dit pendant la conférence, pendant l'interview, mais j'espère que cette explication, énergie, information, matrice, va être suffisante pour l'instant.
Oui. Ces questions viennent peut-être de personnes qui ont pris la conférence en cours de route. Sachez que dans la réécoute, vous pourrez réécouter le début. Michel nous pose la question, la petite version accepte-t-elle toujours la communication?
On avait vu un peu avec toi que c'était pas évident au début. Il fallait quand même la respecter infiniment. Mais je pense que invariablement, oui. Parce que comme j'ai dit, c'est dans nous de vouloir aller bien. Et la petite ou le petit voudra toujours sortir de cette isolation, cette solitude. Et c'est ce que tu as fait d'ailleurs. Mm-hmm. Pas tout de suite, mais avec... En fait, c'est la grande version qui sait comment s'y prendre avec la petite version. Le praticien ne sait pas.
Oui.
C'est toi qui as su tout le temps guider ce qu'il fallait faire. Je pouvais poser des questions, mais à la grande, mais pas à la petite. Je ne posais pas des questions au traumatisme, en quelque sorte. Je posais à la grande, qui est la personne la plus compétente.
C'est ça, cette personne-là, la grande, c'est la version. Oui, c'est la version adulte qui est le vrai thérapeute, en fait.
Oui, oui. Oui, c'est de l'auto-guérison, dès le départ.
Oui. Et Lumière 2003 pose une question qui fait un peu suite à ça. Comment se fait la séparation de l'enfant avec l'adulte une fois le trauma réglé? Comment quitter la scène? Enfin, je comprends la question comme ça.
Oui, oui. Mais moi, je ne me souviens pas exactement là, du coup comment ça finit, mais j'ai l'impression que la petite Maria s'ennuyait. Elle voulait aller faire autre chose.
Oui, en général, c'est plutôt elle qui a dit « Allez, ça jouer. Finit ». Voilà, laisse-moi tranquille.
Mais ça suffit, je vais aller jouer, je vais faire des... Bon. C'est-à-dire, on rejoint l'insouciance de l'enfant, ce qui devrait d'ailleurs être l'insouciance de l'adulte aussi, mais on rejoint ces résolus, en fait. Et donc, il n'y a pas de problème de séparation, puisqu'il n'y a pas eu de fusion. C'est très important, cette histoire, de ne pas fusionner. Je pense que tu l'as bien montré pendant cette petit essai que nous avons fait, cette expérience.
Oui, je trouve que tu as donné des bons artifices, je dirais, à utiliser dans ce processus. Oui. On peut parler de la télécommande. Le fait de mettre les parents sur pause, ça, c'était extrêmement aidant.
Oui, parce que ça permet à la petite version, à l'Enima, en fait, de ne plus être Enima. Commence déjà à sortir.
Oui.
Commence déjà à bouger. Commence déjà à pouvoir signifier ce qu'elle veut. Mmh. Et le fait qu'elle ait suivi la grande version très gentiment, ça voulait dire qu'elle voulait s'en sortir, qu'elle voulait pas rester dans cette situation traumatisante.
Oui, tout à fait.
Ça répond bien. Ça m'est jamais arrivé que la petite version refuse. Parfois, il faut faire appel à des personnages ou des petites astuces. On peut poser, on essaie d'écouter. Mais le meilleur guide, c'est quand même la grande personne qui dit ce qu'il faut faire. Mmh. C'est ce que tu as fait. Tu es une très bonne praticienne, je dois dire.
Oh, merci. Merci
pour la petite, en tout cas.
Mais si je n'arrive pas à travailler avec moi-même, je ne sais pas avec qui je pourrais travailler.
Eh oui, mais je crois que j'ai vu passer la question, est-ce qu'on peut faire ça tout seul? Oui, évidemment, on peut le faire tout seul.
Oui, on en a parlé. C'est connecté. Je trouve que ça demande quand même une certaine expérience, comme tu disais. On ne sait pas trop sur quoi on va tomber. Ça peut être difficile de garder cette dissociation.
Oui, non, tu as raison. Mais c'est faisable quand même. Théoriquement, en tout cas, c'est faisable.
Oui. Alors, on parle de dissociation. Justement, une autre manière de mettre ça en place, c'est la technique du film que tu as effleurée, mentionnée. Oui, est-ce que tu peux brièvement expliquer la technique du film? Il y a plusieurs personnes qui le demandent, sachant que ça fait partie des techniques de base de l'EFT, mais comme nous avons des gens qui découvrent l'EFT grâce au congrès.
Oui, oui. C'est vraiment très, 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 très important. Vraiment très important. Je vais essayer de ne pas être trop longue. Il s'agit de prendre un événement traumatisant où il y a un pic. Par exemple, l'exemple peut être, c'est l'exemple de Gary, mon papa m'a giflé devant le prof, par exemple, ça ne dure pas longtemps, ça peut durer une ou deux minutes, cet événement, et on prend le moment le plus intense, et on l'évalue sur l'échelle de 0 à 10, en général on est à 10 ou non, sinon plus, et on demande aussi à la personne de donner justement la durée du film. Si le film est trop long, c'est qu'il y a plusieurs pics ou plusieurs événements traumatisants ou plusieurs émotions. Alors on prend le plus petit et on commence, et on lui demande aussi, si tu pouvais donner un titre à ce film, quel titre donnerais-tu? Ça c'est déjà une distanciation. Et on dit, on peut dire grosse injustice ou quelque chose comme ça, peut-être un titre, l'enfant dit ou la personne dit le titre qu'il a envie de dire. Et on tapote d'abord sur le titre, ce qui fait qu'on distance. Et même si j'ai ce film qui s'appelle « Grosse injustice », je m'accepte et on procède d'une manière parfaitement classique. Et quand c'est suffisamment baissé, mettons qu'on est déjà à 2, 3, rien que sur le titre du film, pas sur le film même. On a beaucoup de mal parfois avec des grands traumatismes à tenir les personnes parce qu'ils sont aspirés vers le traumatisme, donc on les retient si on peut en disant non, non, vas-y pas encore, attends un peu, on va d'abord baisser, etc. Et ensuite on commence le film juste avant l'événement, quand tout était cool, comme ça une référence, et la personne déroule le film scène par scène, arrêt sur image après arrêt sur image, sur et dès qu'il y a la moindre émotion, on arrête. En général, les personnes ont tendance à courir vers le grand traumatisme, mais c'est là où le praticien entend ou voit qu'il y a un petit frisottis d'émotion et on tapote là-dessus, même si ce n'est pas important. Comme ça, on baisse ça jusqu'à zéro et on procède ainsi jusqu'à arriver au pic qui, à force d'avoir les marches qui ont précédé le pic, sera beaucoup plus facile à descendre. Il ne sera plus à 10, il sera peut-être à 7 ou 5 ou même 4. Et le film va donc permettre de complètement effacer, décharger énergétiquement cet événement traumatisant. Et c'est une technique qui est vraiment de base. Si on veut faire de l'EFT, il faut vraiment beaucoup pratiquer cette technique parce qu'elle est très facile. Elle n'est peut-être pas facile toujours parce que le client n'a pas forcément envie d'obéir au praticien qui dit « attention, on va prendre image par image », mais c'est une méthode très, très efficace. On repasse le film après et s'il reste encore une émotion, on retapote et on repasse le film et quand il n'y a plus d'émotion, ça n'est qu'un souvenir qui est arrivé à la personne à l'âge de 2 ou 3 ans ou plus tard, c'est OK. C'est déchargé. Et c'est vraiment très, très important.
Mm-hmm.
Et, dans les formations, je demande toujours la technique du film dans les études de cas, parce que quand on maîtrise la technique du film, on va très loin en EFT.
Oui, oui. C'est vrai que ça fait partie des outils de base. Et ah, vous la trouverez décrite dans le manuel gratuit de Gary Craig.
Avec l'autre, c'est le traumatisme sans larmes, c'est, ou sans pleurs, c'est aussi
oui.
Une dissociation. Ce sont les techniques de dissociation. Et bien sûr, c'est emprunté à la PNL et d'autres techniques, évidemment. Il y a ça en commun.
Hmm?
Est-ce qu'il y a d'autres questions que l'on pourrait...
Oui, il y a d'autres questions. Il y a Isa Moreau qui demande un conseil. Pour ma part, il y a l'adulte qui parle et qui ressent, mais je n'arrive pas à voir la petite fille, comme si ma mémoire avait été fermée. Est-ce que tu as un conseil pour Isa, Bianca, pour contacter
J'aurais bien la voir en face pour bien comprendre.
Oui, bien sûr, on n'a pas beaucoup de renseignements.
C'est-à-dire, elle a du mal à se connecter avec.
Comme si la mémoire avait été fermée.
Oui. Là, je pense qu'elle est pour user. Si j'ai bien compris la question, hein. Il faut ruser en disant, bon, si cette mémoire est fermée, elle s'appelle comment ? D'utiliser, ça serait quel titre ? Si tu pouvais donner un titre à cette mémoire-là. Et on peut tapoter là-dessus en disant, c'est complètement fermé, mais ça s'appellerait quelque chose. Et on tapote. Et il est très probable que des éléments vont surgir et qu'on va pouvoir intégrer dans le tapotage et le souvenir, l'image va apparaître beaucoup plus vivante.
Oui, et puis parfois on peut aussi...
Isa, si elle a ça, c'est parce qu'elle se protège vraiment beaucoup contre l'impact de ce traumatisme. Et ça, c'est respectable.
Oui, tout à fait, il faut le respecter, oui.
Oui.
Et puis, on peut faire semblant, si c'était possible, d'ouvrir cette mémoire. Qu'est-ce qui pourrait
tout
en sortir
fait. Toutes les
On peut écrire un autre film, même si on ne sait pas si c'est exactement comme ça que ça s'est passé.
Alors, il m'arrive aussi, de temps en temps, quand les personnes ne se connectent pas, je dis, écoute, maintenant, tu es un grand artiste, un grand cinéaste, ou vidéaste, et si tu pouvais mettre en scène une petite fille ou un petit garçon qui a, c'est pas toi évidemment, mais ça serait un peu toi quand même, enfin bref, on trouve les moyens, qui serait dans une situation semblable à la tienne, comment tu ferais ce film? Qu'est-ce que tu mettrais en scène? Quels sont les objets que tu mettrais là-dedans? Et on arrive, comme ça, à trouver des éléments importants et précieux, parce que l'imaginaire de la personne va... va être alimenté par ses propres problèmes, en fait.
Mm-hmm.
Ce n'est pas mon imaginaire qui compte, c'est l'imaginaire de la cliente ou du client.
Oui.
C'est lui qui va fournir les éléments. En fait, on ne fait pas grand-chose quand on est praticien, c'est les clients qui travaillent.
Oui, bien sûr. Si on pouvait faire le travail à leur place, on demanderait bien plus cher. Hein?
Oui. C'est tout à fait ça.
Voilà. Alors, Isa répond dans le chat, oui, c'est cela, je me protège, mais je ne sais pas contre quel traumatisme.
C'est OK. Mais je pense que elle n'est pas obligée de absolument maintenant, tout de suite, résoudre ce problème. Elle peut dire, bon, j'ai un problème, je me protège, c'est OK, je tapote comme ça, gentiment.
Oui.
Jusqu'au jour où il y a quelque chose par surprise, et dire, tiens, j'ai tel élément qui s'est ajouté, et puis elle peut tapoter là-dessus.
Oui.
Je pense que dans son cas, de parler avec quelqu'un, enfin de se tourner vers un professionnel quand même.
Et puis féliciter la petite Isa qui se protège, qui a au moins ce moyen de protection.
Ah oui, c'est très important, la petite Isa, elle fait vraiment ce qu'elle peut.
Oui.
Elle fait vraiment ce qu'elle peut.
Oui. Ben, merci beaucoup Bianca, nous allons libérer la salle pour la suite du programme de la soirée.
D'accord, je ne manquerai pas de suivre.
Merci de toutes les pistes que tu as
Maya, merci pour ce congrès. Au revoir.
Merci Bianca, au revoir et merci à tous nos auditeurs. Sachez que cette conférence sur l'enfant abandonné en nous sera en réécoute une demi-heure environ après la deuxième conférence ce soir. Et si vous avez apprécié cette heure passée ensemble, parlez-en autour de vous. Vos amis peuvent encore s'inscrire. Il reste les deux conférences ce soir et la grande finale demain soir. Je suis Maria Hanel, votre hôtesse ce soir, et je vous donne rendez-vous tout à l'heure dans la salle rouge pour la conférence de Noël Cassan, la quête d'approbation, un emploi à plein temps. Alors prenez une petite pause avant d'attaquer cet emploi à plein temps, et je vous donne rendez-vous à 21h. Merci à tous, à tout à l'heure.